France Musique. Miroir d'Orient. Le 19 mai 1798, l'expédition de Napoléon Bonaparte quitte le port de Toulon pour la campagne d'Égypte. Elle s'achève en 1801. Il faut empêcher les Britanniques d'accéder à la route des Indes et de contrôler la mer Méditerranée. Il faut donc s'emparer de l'Égypte, partie de l'Empire ottoman. L'expédition d'Égypte est une campagne militaire, mais aussi une véritable expédition scientifique et culturelle. L'Égypte est alors considérée comme le berceau de la première grande civilisation. Certains envisagent d'y apporter les Lumières et les acquis de la Révolution. Le général Bonaparte, par ses lectures de jeunesse comme les Lettres persanes de Montesquieu, est inévitablement attiré par l'Orient et la Perse. Il a pu lire le Mahomet de Voltaire et il ne souhaite pas que l'expédition d'Égypte soit une simple campagne militaire. Des artistes et des scientifiques accompagnent alors le général. C'est le début de l'égyptologie scientifique. En dépit de l'échec militaire de l'expédition, une véritable mode part de France pour gagner toute l'Europe jusqu'à la Russie. Maisons, fontaines, intérieurs sont décorés à l'égyptienne. On retrouve même la tête coiffée d'une émesse sur le mobilier. Quant à la manufacture de Sèvres, elle crée des services de table à l'égyptienne. Des sphinx deviennent chenets ou encriers. Des candélabres sont portés par des égyptiennes. C'est toute l'Égypte qui se trouve évoquée et réadaptée. Elle s'installe définitivement à Paris, place de la Concorde en 1836. Le fameux obélisque choisi par Champollion, le jeune déchiffreur des hiéroglyphes, est offert au roi Louis-Philippe en cadeau diplomatique par Mehemet Ali, vice-roi de l'Égypte ottomane. Il est alors transporté jusqu'à Paris depuis Louxor. Il voyage sur le Nil, la mer, puis la Seine, et il est enfin attendu par 200 000 Parisiens le 25 octobre 1836. Pendant qu'une centaine de musiciens jouent les mystères d'Isis de Mozart, les spectateurs retiennent leur souffle. En 1829, dans sa préface des Orientales, Victor Hugo écrit « L'Orient est devenu pour les intelligences, autant que pour les imaginations, une sorte de préoccupation générale. » L'expédition française en Algérie, décidée par Charles X, ouvre la dernière période coloniale française. C'est alors la prise d'Alger en 1830. L'Orient est désormais un sujet de fascination pour les artistes et les voyageurs du 19e siècle. On parle d'orientalisme. Dans un esprit romantique, on évoque avec nostalgie les civilisations disparues, une décadence liée au temps qui passe, un rêve d'exotisme, de voyage et de dépaysement. L'orientaliste, c'est celui qui voyage, nous dit Gustave Flaubert. Tout artiste entreprend son voyage en Orient pour ensuite en écrire son récit. Tel Chateaubriand en 1811 avec son itinéraire de Paris à Jérusalem, Gustave Flaubert, Théophile Gautier ou Alphonse de Lamartine entreprennent eux aussi leur voyage en Orient. Sans doute habités des récits des contes des Mille et Une Nuits ou du Livre des Merveilles de Marco Polo, les voyageurs du 19e siècle partent à la recherche d'un imaginaire mythique de l'Orient, spirituel et sensuel. Les peintres entreprennent aussi leur voyage en Orient. Ils y découvrent des couleurs inconnues, des vibrations lumineuses insoupçonnées, des formes inédites. Le peintre Eugène Delacroix se rend au Maroc et en Algérie en 1832. il accompagne une délégation envoyée par Louis XVIII. Là-bas, il remplit des carnets de croquis, d'aquarelles, de notes de voyage, de descriptions. Mais il attend son retour à Paris pour témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a perçu de l'ailleurs et sans doute de lui-même. Avec les femmes d'Alger dans leur appartement, nous entrons dans une intimité réaliste et troublante. Entre l'imaginaire et le réel du peintre, entre son observation et sa vision. Quant au peintre Ingres, il n'a jamais effectué le voyage en Orient. Et pourtant, il peint son imaginaire, sans doute ses fantasmes. Le désert, la chaleur qui pèse, qui engourdit, qui assomme, est aussi source d'inspiration pour les compositeurs. Inspiré des parfums enivrants, des soirées bercées au son de danse, de l'imaginaire des harems et de ses mystères, des femmes parées de pierres précieuses et d'étoffes soyeuses aux couleurs éclatantes. La musique est elle aussi une évasion, un rêve sonore, un ailleurs. Les musiciens français sont à la recherche d'une poétique nouvelle. Ils céderont, presque tous, à cet orientalisme musical dont ils colorent leurs partitions. Alors, le compositeur Camille Saint-Saëns a de nombreuses fois voyagé en Tunisie, en Égypte et surtout en Algérie. La bacchanale de son opéra Samson et Dalila, composée en 1877, illustre ses emprunts aux mélodies entendues dans ces contrées lointaines. Quant à Hector Berlioz, il est lui aussi fasciné par l'Orient. Et c'est un poème de Victor Hugo qui lui inspire sa mélodie, La Captive. Une femme sublime sa captivité forcée dans un harem grâce à l'écriture poétique et à la rêverie. L'imaginaire pittoresque de l'Orient, c'est l'imaginaire dominant, la seconde moitié du siècle, qui voit un afflux de touristes sur le pourtour méditerranéen. Cette évolution est possible grâce au développement technologique. Le bateau à vapeur et l'organisation de lignes régulières et sûres, mais aussi le chemin de fer et notamment l'Orient Express à partir de 1883. Mais au XIXe siècle, on dénonce déjà avec lucidité les illusions pittoresques des touristes. Le phénomène touristique connaît un développement sans précédent dans la seconde moitié du siècle. Il devient alors la forme dominante du voyage en Orient. Constantinople, ville orientale par excellence et porte de l'Orient, offre les images pittoresques que les touristes ont imaginées. Après quelques visites de bazars, de cafés, des murailles et des mosquées, après quelques promenades sur le Bosphore et à l'île des Princes, touristes et journalistes se déclarent subjugués et leur vision de l'Orient est faite. Le 19e siècle annonce le tourisme de masse. Dès les années 1840, apparaissent et se développent les guides touristiques. Le guide est alors un véritable guide de l'imaginaire. Guide de l'attendu, du rêvé, du fantasmé. Mais l'Orient peut-il répondre à ce désir d'ailleurs, à cette quête d'illusion ? L'Orient peut-il répondre aux angoisses du modernisme, à ce rêve occidental ? Mais la quête d'un ailleurs n'est-il pas d'accueillir l'autre ?
À réécouter sur francemusique.fr.